25e édition du festival Jazz sur 131, le Conseil Général de la Haute-Garonne vous propose du 7 au 24 octobre près de 60 concerts à travers le département. Cette année encore, tous les jazz sont à l'honneur. Laissez-vous transporter par les sons de Chucho Valdés, Avishai Cohen, Lisa Edal, Roy Haynes. Retrouvez toute la programmation sur www.jazz31.com. Le jazz, toujours.
Chez vous, pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Page à page, nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Rachel Corenblit pour son nouveau livre jeunesse, Le rire des baleines aux éditions du Rouergue. Bonjour Rachel.
Bonjour Claire.
C'est toujours un plaisir de te recevoir.
C'est toujours un plaisir d'être reçue par toi.
Ben voilà, donc tout va bien. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos avant de parler avec toi donc de ce nouveau roman en jeunesse. Et puis aussi un petit coucou que j'adresse à une de mes auditrices que je sais qui m'écoute avec sa tasse de thé à côté d'elle, c'est Valérie. Coucou Valérie. Alors, quelques petites infos, comme je vous le disais, ce soir, en ce jeudi 20 octobre, la veille des vacances scolaires, enfin Rachel est déjà en vacances d'ailleurs, m'a-t-elle dit tout à l'heure, à 19h à la médiathèque José Cabanis à Toulouse, une lecture numérique de Cellule K, une nouvelle écrite par Didier Goupil. Donc c'est un magnifique exercice de mise en abîme dans lequel le texte lu, projeté et réécrit est mis en scène et avec Enrico Clarelli, qui est vidéaste et metteur en scène, et ainsi qu'avec Manuela Agnesini. Alors, c'est à travers ce spectacle, Didier Goupil, donc l'auteur, entraîne le spectateur dans le processus d'écriture de l'auteur, la solitude de l'écrivain face à la page blanche, son travail en résidence, la naissance d'une fiction et son ancrage dans une réalité vécue. Donc, l'entrée est gratuite. Tous les renseignements sont à demander au 05 62 13 21 99 et c'est donc ce soir à 19h à la médiathèque. Ensuite, samedi 22 octobre, de 10h30 à 12h30, également à la médiathèque José Cabanis, mais cette fois-ci au troisième étage, au petit auditorium, l'atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. C'est un atelier qui est gratuit, je vous le rappelle, mais il faut s'inscrire pour une question de place, donc au 05 62 27 45 69. C'est un atelier, je vous le rappelle, qui est mensuel. Ensuite, le 22 octobre, samedi également, mais le soir, donc vous pouvez faire les deux, à la fois à l'atelier de poésie et aller à Montauban pour 19h à la librairie La Femme Renard, qui a succédé, je vous le rappelle, à la librairie du Scribe, et qui se situe toujours, hein, le lieu n'a pas changé par contre, 115 Faubourg Bonne... pas Faubourg Bonnefoy, ça c'est à Toulouse, 115 Faubourg La Capelle à Montauban. Une rencontre avec l'auteur Jérôme Lafargue pour son roman « L'année de l'hippocampe » aux éditions Kidam. Donc l'entrée est libre là aussi et les renseignements sont disponibles donc à la Femme Renard au 05 63 63 01 83. Et puis je termine cette page info avec l'atelier mensuel d'écriture animé par Hélène Dufaux, notre auteure toulousaine. Ce sera le dimanche 5 novembre. Et donc je vous donne son numéro de téléphone pour tout renseignement, pour savoir les heures, le lieu, le montant de l'atelier, etc. Au 06 70 22 02 99 et c'est le dimanche 5 novembre.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, ma page info étant refermée, je me tourne vers mon invitée, Rachel. Alors, on va redire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, tu es née au Québec, tu as vécu ton enfance en Israël et puis après, tu es revenue dans le sud de la France.
Tout à fait.
Non loin de la frontière italienne, vers la...
Vallée des Merveilles.
Voilà, oui, cette Vallée des Merveilles. Hein. Ensuite, donc, tu es toulousaine d'adoption depuis une dizaine d'années. Hein. Voilà. Alors, tu as toujours écrit depuis toute petite.
Oui, tout ça.
Voilà. Et puis, la lecture, tu es boulimique de lecture. Hein, tu lis tout ce qui te passe dans les mains.
Exactement, oui.
Voilà. Et puis donc, tu es comme métier, tu es enseignante et formatrice.
Alors, comme je suis à mi-temps, donc la formation en ce moment, puis il n'en reste pas grand-chose dans l'éducation nationale, mais oui, je suis maître formateur.
D'accord. Donc là aussi, quand même, on peut dire l'écriture y est... Enfin, il y a... Non ? Tu ne prépares pas des cours ?
Je pense que tout est lié, en tout cas le lien entre ça, c'est la culture. On fait un métier de culture et de partage et d'humain entre ouais, c'est ça.
Tout à fait. Alors, tu étais venue, deux livres en une année. Hein. Tu étais venue cette année, hein, pour ceux qui n'aiment pas lire, dans la collection Zigzag aux éditions du Rouergue.
Un roman pour les plus jeunes, oui.
Voilà, pour les plus jeunes. Et là, tu reviens avec Le rire des baleines dans une collection qui est récente, qui est une collection qui s'appelle Dakodak, et qui est en fait entre la collection Zigzag et la collection Dos à dos.
C'est ça, elle a trouvé sa place, c'était un créneau, si j'ose dire.
Ben oui, c'est tout
ça,
à fait.
C'est entre les Zigzag, c'est pour les plus jeunes, 7-10 ans.
7-8 ans, oui. Voilà,
oui, voilà, Dakodak, Dos à dos, c'est pour les adolescents plus affirmés.
Oui, comme un petit bout d'enfer, là, c'est sûr que c'était pas à mettre dans les mains des bambins de 10 ans.
Quoique, pourquoi ?
C'était noir quand même.
C'était noir, mais je pense que des fois, les limites d'âge sont souvent...
Oui, non, ça, après, voilà, ça dépend de la maturité de l'enfant. C'est des idées, voilà, que les auditeurs ne s'y méprennent pas. Ce sont des âges approximatifs que l'on donne ici. Après, chacun connaît son enfant et voilà, c'est à peu près ce qu'il peut lire et ne pas lire.
Et puis, nous, quand on lisait, quand on était plus jeune, quand la littérature jeunesse n'existait pas, entre guillemets, il n'y avait pas... très tôt, je me souviens avoir lu Zola assez jeune.
Il y a eu les petites filles modèles d'abord, hein, Comtesse de Ségur.
C'est vrai, un passage obligé. Mais après, on pouvait tomber très vite dans des romans qui étaient. Et puis il n'y avait pas de.
Oui, il n'y avait pas d'intermédiaire, voilà, c'est vrai. Exactement. Donc c'est bien cette collection d'Akodak.
Bon voilà, 10 ans, à partir, je pense.
À partir de 10 ans, voilà, jusqu'à 13-14 ans.
120 ans.
Ouais, bah voilà, là on voit large. Et on peut faire un petit coucou d'ailleurs à Adèle, que je remercie pour son efficacité toujours très précieuse dans l'organisation de l'émission, l'envoi des livres et puis la connaissance des auteurs, etc. Donc tu reviens donc avec ce nouveau roman jeunesse, donc c'est ton 8e. Hein.
Oui.
Déjà.
Déjà.
Eh oui. 8e roman de Rachel. Alors le titre, Le rire des baleines, on en connaît la signification seulement dans le dernier chapitre, hein, c'est-à-dire à la fin du livre, mais peut-être que ce titre a peut-être une histoire que tu veux nous raconter.
En fait, quand je l'écrivais, c'était pas réellement le titre auquel je pensais, c'était par-dessus la tête le premier titre. Alors, il y avait un côté un peu flou. Alors, évidemment, on cherche, c'est un travail avec mon éditrice. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment... Et on est tombé sur la fin du monde dans mon jardin. Et alors, pendant quelques temps, j'ai mijoté ce titre en disant la fin du monde dans mon jardin, la fin du monde dans mon jardin, entre un petit bout d'enfer et... c'était un peu
apocalyptique.
Bien que l'apocalypse soit un peu présente dans le roman, mais voilà, donc j'avais besoin de soleil et de rire, donc le rire des baleines s'est imposé.
Le rire dans la vie, il paraît qu'on gagne des années en plus, hein. Plus on rit et plus on vit longtemps.
Bon, ben rions.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour, hein, dans ton roman. Hein, on retrouve ton humour, on va dire, légendaire, hein, presque légendaire, maintenant, au bout du 8e roman. Et puis ton style alerte, hein, qui fait que c'est toujours agréable de lire tes livres, Rachel. C'est aussi une aventure où on a peur, hein, où on a vraiment... on tremble à certains moments pour les personnages. Hein. C'est vraiment bien retranscrit, bien écrit. On vit vraiment cette aventure avec eux. Et puis, c'est aussi une belle histoire pleine de courage et d'amitié, hein, bien sûr. Même en plein milieu d'une tempête, on va le voir. Peut-être que si je lisais la quatrième de couverture, ça donnerait une idée à nos auditeurs.
Je t'en prie.
Et comme ça, après, ça nous permettra de développer. Alors, je lis. Pour Antoine, c'est la fin du monde, bah justement.
Voilà, mais oui, la parlait. Fin du
monde. Il doit aller passer quelque temps chez son père, dans sa nouvelle maison, avec sa nouvelle femme et la fille de cette dernière, qu'il déteste. Mais il peut y avoir pire, un vrai déluge au fond du jardin. Cette aventure, pas drôle du tout, ils vont la vivre ensemble et en rire. Tout à la fin. Ah oui, ça c'est vrai que... Le rire, il faudra attendre les dernières pages, hein, parce que même s'il y a de l'humour hein, au cours de l'écriture, c'est vrai que voilà, ils en rient tous de cette aventure, mais à la fin, hein, parce que.
Je pense que le titre, c'est surtout pour, je pense que c'est un roman optimiste.
Ah oui, tout à fait.
C'est un roman sur la possibilité qu'on a de dépasser certaines
événements.
Oui, angoisses, certains... événements, les faits que la vie nous impose et qu'on on se croit bloqué, barricadé, coincé et en fait quelque part on à certains moments, grâce à certaines rencontres, on peut dépasser.
Oui, parce qu'on va le voir, quatre personnages donc, qui vivent cette aventure finalement ensemble. Hein, et quelque part au départ, enfin même pas quelque part au départ, c'est au début quatre personnages qui sont, on n'aurait jamais
totalement
imaginé, qui vivent cette aventure ensemble.
Deux enfants, deux adultes.
Voilà déjà. Et puis, alors moi, on retrouve dans ce roman, donc Le Rire des Baleines, des thèmes qui te sont chers. Il y a la tolérance, l'amitié, la solidarité, l'espoir, le respect, la confiance sont des thèmes qui te sont chers, Rachel.
Importants.
Qui sont importants, qui font partie de la vie, de ta vie aussi.
De mon métier,
de la façon dont tu vois les choses.
Donc j'espère le monde, oui.
Et ça se retrouve un peu dans tous tes romans, mais on parle de celui-ci aujourd'hui. Donc tous ces thèmes-là sont vraiment présents dans Le Rire des Baleines.
Mais tant mieux que tu me renvoies ça, parce que c'est exactement ce que j'essaye d'insuffler dans le texte.
Je l'ai bien réceptionné, tu vois, donc c'est que tu as bien mis ce que tu voulais mettre d'une façon qui fait que quand on le lit, on ressent tout ça. Et puis il y a aussi la famille recomposée, le droit à la différence, les personnes âgées, hein, parce qu'il y a une personne âgée dans l'histoire, la dépression, hein, tu fais aussi allusion... la dépression, hein, soi-disant le mal actuel de notre époque, malheureusement. Et puis, donc, il y a aussi les catastrophes naturelles, dont une en particulier, hein, l'eau, hein, la tempête. Voilà. Donc, le tout, bien sûr, servi par ta plume toujours alerte et ton humour joyeux. Et puis, la confiance, voilà, ta confiance dans la vie, on le sent, ça aussi, parce que, comme tu le disais à l'instant, ce livre, il est optimiste.
Oui.
Il finit bien et puis apprend des choses.
Il finit bien et pas bien. En même temps, c'est vrai, il finit comme la mort. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de mort.
Oui, non, voilà, rassurez-vous, il n'y a pas de mort.
Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de truc. C'est pas glauque.
Ah,
en même temps,
ce
n'est pas une fin non plus extraordinairement gaie parce que, voilà, il y a les conséquences de la tempête. Ce n'est pas une des solutions. Je pense que dans la vie, j'essaye de faire des romans qui ressemblent, entre guillemets, à la vie, qui ne soient pas des contes de fées. Alors.
Il y a du bon, puis il y a du moins
voilà,
bon.
La vie.
C'est comme dans la vie.
Voilà.
C'est le yin et le yang. Hein.
Ouais,
c'est un peu
fait.
Ça. C'est ça aussi.
Oui.
Donc, ils en ressortent quand même grandis.
D'où l'optimisme.
Sont, hein, les quatre, qu'ils soient adultes ou enfants.
Oui.
Ils en ressortent grandis.
En tout cas, ils en ressortent soudés et construits.
Oui. Et avec une évolution, il s'est passé quelque chose. On sent que la tempête, a eu lieu, mais il s'est passé quelque chose en eux.
Ils ont changé, tu as raison.
Oui, ils ont changé. Alors, les vacances approchant bientôt, je vous conseille plus que largement d'offrir ce livre pour les vacances scolaires qui approchent à vos enfants. Alors, une construction originale pour ce roman, puisque c'est comme un conte à rebours. Donc, on commence en fait par 2 mois avant, 15 jours avant, 2 heures avant. Enfin, puis après, c'est les horaires.
Oui.
Jusqu'à,
c'était une façon...
jusqu'à après, le dernier chapitre.
C'est ça. C'était une façon peut-être pour moi, le truc pour distiller le suspense et pour installer la situation.
Le crescendo,
oui,
hein,
ça
va crescendo. C'est pour ça que quand je disais on vit vraiment, bah, j'ai vraiment ressenti tout ce que tu as écrit dans la tempête. Là, je m'y voyais. Non, peut-être pas quand même parce que j'aurais pas aimé, mais je veux dire, je me disais, mais comment ça va se terminer ce livre? Comment ça va évoluer?
En l'écrivant, je ne savais pas comment ça allait se terminer.
Ah oui.
Sur le coup, c'était comme, enfin, dans le temps d'écriture qui a été assez court finalement, j'étais in situ, et je ne voyais pas, je veux dire, l'eau montait, puisque c'est une histoire de montée des eaux.
Voilà, c'est la montée de, voilà, alerte rouge avec une montée de, enfin, une crue, voilà, très importante. Et donc, tu voyais pas toi non plus l'issue.
Non. J'étais surprise moi-même de cette
de
fin.
De l'issue qu'ont trouvé les personnages.
Bon, je triche un peu quand je dis j'étais surprise, parce qu'on est surpris, oui et non, on maîtrise un minimum, mais quelque part, si, quand même, une forme de déréliction, quand j'écris, c'est d'accepter la prise de risque de ne pas savoir. Et c'est justement dans cette prise de risque de ne pas savoir comment ça va se terminer que peut se distiller le suspense.
Bah oui, tout à fait, oui. Parce que ce que tu as écrit, donc apparemment, tu le vivais vraiment aussi. Et nous, à la lecture, on le vit réellement, enfin, on le vit et on le ressent vraiment... aussi, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'intense et dans l'écriture et donc forcément à la lecture. Alors donc le premier chapitre donc est intitulé 2 mois avant. Alors c'est l'histoire, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, donc Antoine qui vit avec sa maman et sa maman rencontre, on va dire, la dépression, hein, comme malheureusement
elle peut plus faire face, elle ne peut plus gérer son enfant, elle n'y arrive plus, elle baisse les bras.
Comme dit Antoine, elle pleure des litres et des litres, ma mère. Elle se vide entièrement. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Antoine, voilà. Le nez rouge, les paupières alourdies par le malheur. Voilà, c'est comme ça qu'il voit sa mère quand il rentre de l'école, enfin du collège. Et donc la mère d'Antoine, donc il l'élève seul. Donc son papa ayant refait sa vie au milieu de nulle part, un endroit moche et loin, là où souffle le vrai mistral qui décorne les bœufs et rend fou à force de siphonner les oreilles. On n'a vraiment pas envie d'y aller, hein. Et Antoine n'a vraiment pas envie d'aller vivre chez son père.
Non.
Et il dit aussi comme si on pouvait refaire sa vie. Voilà, parce que le papa d'Antoine a refait, entre guillemets, c'est une expression. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Mais...
Oui, c'est une expression d'adulte, refaire sa vie.
Refaire sa vie, mais est-ce que oui, quelque part, est-ce qu'on peut vraiment refaire sa vie? On la continue, mais la refaire, on ne peut pas effacer et repartir à zéro. C'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'il a une nouvelle femme avec une nouvelle maison. Il a changé de région, mais après, voilà. Donc, c'est... Donc ça, c'est le premier chapitre, 2 mois avant.
Oui. Hein,
voilà, pour situer un peu voilà, la maman qui baisse les bras et qui ne peut plus faire face.
Et qui l'envoie chez son père
Et qui l'envoie chez son père dans le sud de la France. Voilà. Ça, c'est pas précisé où exactement, mais là où il y a le mistral, hein, qui rend fou, et dans le sud. Alors le deuxième chapitre, c'est 2 semaines avant. Donc là, voilà, on fait un bond, il s'est passé des choses, hein, entre 2 mois avant, 2 semaines avant. Donc Antoine a donc rejoint la maison de son père avec sa nouvelle femme Hélène, qui cuisine fort bien, hein, qui n'élève jamais la voix, et puis sa fille Abigail. Alors sa fille Abigail, qu'Antoine n'aime pas du tout.
Non, hein, parce qu'elle est première à l'école, elle est sportive.
En sport, elle court plus vite que lui. Alors là, pour un garçon, c'est l'affront.
Elle a l'air de le mépriser.
Oui, elle a l'air. Enfin, lui le ressent comme ça.
Sauf qu'Abigail a le même problème que lui, c'est que son père, il est malien.
Elle le voit pas. Voilà.
Il habite au Mali.
Au Mali.
Et
c'est Bamako.
Voilà, ben c'est un peu comme quelque part il compare sa mère au père d'Abigail qui n'est pas là.
Ben oui, parce que comme il vit chez son père, il n'a plus de nouvelles de sa mère, il n'arrive pas du moins à la joindre, hein, donc c'est vrai qu'il il compare sa mère et le père d'Abigail. Donc Abigail qu'il n'aime pas du tout et qui, elle, a comme passion la fin du monde, hein, l'apocalypse. C'est son truc.
C'est ça.
Hein, c'est...
son sujet principal de discussion.
Voilà, donc lui, ça, effectivement, Antoine, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc voilà, y a vraiment, on sent qu'il y a un fossé entre eux. Puis il y a Madame Yolande. Madame Yolande, une vieille dame, la voisine d'en face, qui habite seule. Voilà, donc qui a son importance, hein, bien sûr. Puis Bertrand. Alors, qui est trentenaire plus 5, hein, donc 35 ans, on va dire, qui vit chez ses parents, hein, voilà. Genre un Tanguy qui s'appelle Bertrand.
Oui, je l'aime bien, Bertrand.
Ah oui, moi aussi.
Il est un peu largué par la vie.
Dans la maison d'à côté, donc il vient à la maison d'à côté de celle d'Antoine, qui ne travaille pas, et voilà, qui a des dreadlocks sur la tête. On l'imagine tout à fait bien, en plus, des dreadlocks sur la tête, et qui a tendance à tirer sur la cigarette qui fait rire, hein, comme dit Antoine. Hein,
oui.
On l'imagine tout à fait, hein.
C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il soit vraiment présent et qu'il soit quelqu'un de réel et pas juste un cliché. Voilà. J'essaie d'éviter les clichés.
Hop. Donc, il attend que la vie passe, hein, autour de lui. Il calcule les horaires des passages des avions puisqu'il y a le Paris-Marseille qui passe pas loin de son figuier.
Voilà. Hein, dans l'angle de ces deux figuiers.
Oui, voilà, donc il fait des calculs très savants pour. enfin bon, c'est moi aussi je l'aime bien, Bertrand. C'est un personnage qui est attachant, hein. Comme dit Antoine, hein, vers la fin du livre, voilà, c'est comme un enfant qui aurait grandi trop vite.
Oui.
Hein, il s'aperçoit que finalement il y a beaucoup de gens qui ressemblent à Bertrand, en fait, des enfants qui ont grandi trop vite.
Mais finalement il va s'apercevoir qu'il y a pas mal d'adultes qui sont finalement
restés un peu.
Voilà, il y a des centimètres, enfants. Des rides en plus et le sens des responsabilités. Et justement, le sens des responsabilités, c'est ce qu'il va travailler. Donc la frontière entre adultes,
oui,
et enfants, elle n'est pas
forcément.
C'est
ça, justement, ouais.
Mais ne sommes-nous pas des grandes enfants
Mais si, Rachel, et tant mieux! Et tant mieux, ouais. Je trouve. Alors, ensuite vient le chapitre 5 jours avant. Donc là, on se rapproche de quelque chose d'inévitable, on le sent. Alors, ce chapitre-là, je l'aime beaucoup. C'est une lettre qu'Antoine écrit à sa maman, la première, hein, sans doute, hein, d'ailleurs, puisque voilà. Et il lui raconte un peu sa vie actuelle, ses rapports avec sa belle-mère, avec Abigail, qu'il ne veut pas considérer comme sa sœur.
Non.
Hein, voilà. Et puis, et voilà, il se demande lui où est sa maman. Hein, donc, c'est là où il y a le rapprochement entre le père d'Abigail qui est au Mali et puis ben Antoine qui se demande où est sa maman parce qu'il n'arrive pas à la joindre. Il lui parle de la voisine, Madame Yolande, hein, la vieille dame, qui ne veut pas qu'on l'aide quand elle tombe.
Non, elle refuse l'aide.
Ouais.
Elle est fière.
Oui. Et lui, il a envie d'aider Antoine, c'est normal.
Il a envie d'aider.
Lui, il a envie d'aider. C'est un petit garçon, enfin un jeune garçon qui. Et puis il lui parle aussi à sa maman de Bertrand, hein, qui est son voisin aussi. Et qu'il apprécie, hein, donc voilà. Donc c'est une jolie lettre, hein, qu'il envoie à sa maman. En fait, elle lui manque, hein, sa maman. Il veut pas l'avouer trop, mais elle lui manque énormément.
Oui, mais sachant qu'au début, il écrit pas chère maman.
Ah oui, il s'y refuse. Hein.
Je t'écris pas chère maman parce que quelque part, elle mérite pas.
Ben voilà, parce que genre elle a un peu laissé, elle l'a abandonné.
Elle l'a planté.
Voilà, et donc. Alors ensuite, il y a le chapitre « La veille ». Alors là, on se dit « Oulala, mais la veille de quoi ?» C'est la question exactement qu'on se pose. Alors la veille, il se passe quoi ? Oui. la veille, il y a l'annonce, hein, à la télévision, aux informations, d'une alerte rouge dans la région, d'un risque de crue. Voilà, en fait, c'est ça.
Oui.
La veille, il se passe ça. Et donc, forcément, pas d'école.
Pas de collège.
Pas de déplacement, hein, on évite les déplacements, donc tout le monde, tout du moins Hélène, la maman d'Abigail et Antoine sont à la maison. Et puis ensuite, ce sont des chapitres qui viennent avec des heures. Alors là, on sent monter vraiment, il y a un crescendo du suspense et d'une certaine tension, hein, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on vit vraiment les choses au rythme de ton écriture et puis de notre lecture. Et donc, après, ce sont des heures. Alors là, on a 8 heures du matin. Voilà, c'est 8 heures du matin. Antoine se lève. Et là, c'est le grand silence. D'habitude, il y a des oiseaux. Il entend les oiseaux. Il entend la vie, tout du moins dans la rue. Et là, il n'y a rien. C'est le calme avant la tempête.
Mmh,
on peut
ça.
Le dire.
Oui.
Donc, pas de bruit, voilà. Puis, il fait sombre, hein, aussi. Hein. 8 heures du matin, il fait...
Gros nuages noirs qui planent au-dessus de la maison.
Alors, il décide de alors, Hélène décide d'aller chercher le papa d'Antoine à Nîmes. Elle dit qu'elle n'en a pas pour longtemps, qu'elle fait l'aller-retour, hein, et elle laisse donc les enfants à la maison.
Donc, les deux vont se retrouver tout seuls.
Tout seuls dans la maison.
Avec Bertrand et avec la voisine en face.
Oui, enfin, tout du moins, pas de suite.
Non, pas de suite, c'est vrai que d'abord, voilà. Il y a 8 heures. Oui, c'est vrai.
Voilà, oui, 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 voilà.
Tu respectes la chronologie.
Ah oui, je respecte la chronologie. Donc voilà, 9h30, voilà, un violent orage. Donc autour de nous, c'est le monde qui pète, qui explose, hein, de la grêle, plus de téléphone. Donc on sent, et Bertrand donc, qui hurle le nom de Zeus, torse nu dans la tempête. Donc là aussi, on l'imagine avec ses dreadlocks, en train d'honorer, d'appeler
les
Zeus.
Les puissances divines.
Tout à fait, tout à fait.
La force de la nature.
Alors, c'est là où aussi Antoine tente de rassurer Abigail, hein, parce qu'elle a peur de l'orage.
C'est la première fois qu'il voit qu'elle est faillible.
Oui, qu'elle n'est pas aussi forte, finalement.
C'est pas un
robot.
Enfin,
elle est forte, mais qu'elle a une faille, qu'elle est humaine, quoi, finalement. Enfin, elle l'est, nous, on le sait. Mais bon, lui, il la voyait plus, pas comme une personne... humaine. Et donc, voilà, donc ça c'est 9h30. 9h45, là, Antoine défie aussi l'orage avec Bertrand, hein, en disant oui, voilà, que c'est le plus grand jour, le grand jour des nuls, hein, des écrasés par la vie. Moi j'ai bien aimé cette expression, hein, de s'adresser à la nature en disant voilà, parce que Bertrand, bon, c'est un peu, il a un petit peu laissé.
C'est un peu un loser, comme on dit.
Oui, mais...
Ah, c'est un gentil loser.
Voilà. Et puis courageux. Hein, aussi, on va le voir. Il est courageux.
Mais ils sont tous courageux.
Tous, mais enfin, je veux dire, c'est peut-être un loser, mais il est courageux.
Oui.
Ouais, voilà,
on
moi,
peut
je
être loser et courageux.
Oui, c'est
on
vrai.
Peut être... Enfin, ça va, c'est pas antinomique.
Oui, c'est pas... Mmh. Oui, puis quand on... ouais, mais bon, c'est vrai que quand on dit loser, ça a un côté négatif, alors que bon, je trouve pas, moi.
Disons qu'il a d'autres raisons. Il se bat pas pour certaines choses.
Tout à fait. Il a ses combats perso.
Voilà, il a ses combats, tout à fait.
Voilà, en fait, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Alors donc, la rue est devenue une rivière furieuse. Hein, et là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que la voisine, Madame Yolande, la vieille dame, est en train de sortir dans son jardin... alors que...
L'eau a monté.
Ah oui, là, ça ne va pas du tout. Donc, Bertrand décide d'aller l'aider et de la ramener donc, à la maison d'Antoine. Donc, ça va être un parcours du combattant. Hein. 10 heures sonnent. Hein. On suit vraiment pas à pas le parcours dangereux de Bertrand et donc de la vieille dame. Alors, il y a des phrases, hein, je ne peux pas toutes les noter parce qu'on est rattrapé par le temps, mais il y a des très belles tournures de phrases et une très belle écriture, hein, Rachel. Et donc, avec des choses très imagées, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas le temps de les lire toutes. Alors, ils se retrouvent tous les quatre dans la maison, enfin. Et là, l'eau monte, la bibliothèque s'écroule, les livres flottent, enfin même coulent, hein, carrément. Et 12h30, on s'aperçoit que Madame Yolande a un prénom, elle s'appelle Anita. Ça, c'est... Voilà. Il y a la mallette... la boîte à bouffe d'Antoine. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ce sont les clashs, hein, qui nous rattrapent, Rachel. Donc, bon, je vous raconte pas la fin de ce livre. Parce que, il faut le lire. Donc, la boîte à bouffe d'Antoine. Après, l'eau monte et il faut qu'ils trouvent une solution. Ils la trouveront, je vous rassure. Mais bon, je ne vous raconte pas comment. Et puis, il y a un après avec plein de belles choses et le rire des baleines. Parce que c'est le souvenir que veut garder Antoine de cette aventure. Voilà. Donc, je le recommande pour les vacances scolaires. Et pas que, hein, tout le temps. Le rire des baleines aux éditions du Rouergue de Rachel Corenblit. Merci, Rachel.
Eh bien, merci à toi, Claire.
Tu reviendras nous parler de tes prochaines écritures, de tes prochains romans. Mais oui, je le sais. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, ce sont les vacances. Donc, on se retrouve le jeudi 3 novembre. En attendant, on termine en écoutant... non, c'est pas les Clash, c'est Nirvana, je crois. Hein,
je ne sais plus. C'était soit l'un, soit l'autre. C'est Nirvana.
Bon, Nirvana,
Un peu de secousse.
Voilà, de secousse, comme dit Rachel. Après la tempête, des secousses. Adiciats.